OK, on va prier avant de continuer ce matin. Seigneur, on veut te remercier encore pour cette journée. On te remercie pour ta grâce qui repose sur nous. Merci pour ton adoption, Seigneur. Et merci que chacun d'entre nous ici a eu la grâce de connaître Jésus, de connaître ton Fils et de te connaître. Et je prie de bénir ce temps ensemble, de nous bénir là où ce que nous sommes et de venir apaiser nos cœurs, Seigneur, et nous donner de pouvoir... Et concentré sur ta parole ce matin. Et merci pour tous les étudiants qui sont ici. Merci pour mes frères, mes sœurs dans le Seigneur qui sont désireux d'en apprendre davantage sur ta parole, Seigneur. Amen. Donc, vous sentez toujours bien à l'aise de poser des questions, mais ce matin, c'est ça, on va être bon de finir le chapitre 2. J'ai quelques points à mentionner, quelques trucs qu'on n'a pas encore parlé dans le chapitre 2. La semaine dernière, on a terminé. Je crois qu'on a terminé avec ça. On a peut-être terminé avec une question, mais on avait parlé de. On a parlé de la possibilité, pas la possibilité, mais le fait que la diète était végétarienne chez les animaux, les humains. Puis je pense qu'on a fini avec ça. On a parlé un petit peu que la dentition n'était pas nécessairement automatiquement signe d'une diète spéciale. D'ailleurs, il y avait. Je vais vous faire tourner dans Ésaïe 11. Un texte certainement prophétique, dépendamment des positions eschatologiques, ça peut être mis un peu n'importe où, là, mais à la base, dans le futur, on peut dire que c'est dans le futur. Souvent, c'est un texte qu'on croit qui parle des nouveaux cieux, nouvelles terres. Ésaïe 11, 6 à 9. Puis, c'est comme un peu un commentaire, une réponse par rapport à des animaux qu'on est habitué de voir carnivores, que ce ne sera même pas le cas même dans le futur. C'est Ésaïe 11, 6 à 9. Le loup séjournera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits une même couche et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Un nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère et l'enfant sevré mettra sa main dans le trou de l'aspic. L'aspic, c'est un autre vipère, un serpent venimeux. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la connaissance de l'Éternel remplira la terre comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Un peu la même idée aussi dans Ésaïe 65, 25, où Ésaïe 65, 25, le loup et l'agneau paîtront ensemble. C'est drôle d'avoir un... Pensez à un loup qui va paître, mais bon. Le lion comme le bœuf mangera de la paille et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte, ma montagne sainte, dit l'Éternel. Donc un texte prophétique, vous voyez un petit peu l'idée, c'est que s'il y a de quoi ici, on pourrait même voir un retour en arrière. On parle même de... Donc, non seulement on voit de la diète végétarienne pour des animaux qu'on est réputé... être carnivore, mais on voit aussi pas d'inimitié entre les animaux, pas de compétition, pas d'inimitié entre l'homme et les animaux aussi dans ces textes-là. T'sais. Au contraire, on voit un peu ce que ça pouvait être au début, qu'il n'y avait pas cette crainte-là, ce danger-là, ni entre les animaux, ni entre les humains et les animaux. Et je voulais juste relever ce texte-là. Une petite note que je n'ai pas mentionnée dans Genèse, parce qu'on parlait des animaux comme quoi qu'il y en a qui ont dû s'ajuster avec une nouvelle diète éventuellement, mais ça ne veut pas dire qu'ils se sont transformés. Là. Il y avait déjà probablement une dentition particulière, comme on a parlé du panda géant qu'il a regardé à la bouche. C'est un petit peu... c'est difficile à croire que ça ne mange pas d'autres animaux. Là. Mais je voulais juste mentionner qu'il y a un animal, par exemple, qui s'est vu modifier automatiquement ou en tout cas subitement. Le serpent. Ouais. Vous savez que le serpent, ça c'est un autre truc que j'ai vu à l'école. Eux, ils appellent ça des organes vestigiaux. Ça veut dire, en évolution, des fois, on croit qu'il y a des organes qui ont dû servir à un moment donné dans le passé, puis sont devenus désuets en cours d'évolution. Puis il y a comme des vestiges de ça dans des animaux, des fois, des trucs osseux ou des organes, on ne sait pas à quoi ça sert. Puis ils appellent ça des organes vestigiaux. Des fois, ils ont appelé des organes vestigiaux trop vite parce qu'ils ont trouvé des utilités plus tard. Il y a des trucs, des fois, chez des animaux, même chez l'être humain, où on n'avait pas d'idée à quoi ça servait, mais on a fini par le comprendre. Puis il y a d'autres fois, comme chez le serpent, entre autres, c'en est un cas. Moi, je trouve ça intéressant. À mon avis, c'est un clin d'œil à ce qui s'est passé. Les serpents ont des formations vestigiales au niveau de leur colonne vertébrale, whatever. C'est osseux, je suis pas mal sûr que c'est osseux. Puis c'est ça, ce qu'on nous enseigne évidemment à l'école, c'est que ça a déjà, il y a déjà eu des pattes, ça a déjà, tu sais, ça a une question d'évolution, ça a déjà probablement le serpent a déjà marché ou quelque, tu sais, dans le processus d'évolution, peut-être qu'il y a un ancêtre commun qui est un peu reptilien ou amphibien style. Mais si ça n'est de quoi, ça pourrait être juste un beau clin d'œil au fait qu'il y a un temps où c'est un animal qui marchait à ras-le-sol, ok, que c'était qui. Je sais pas les organes vestigiaux, il y en a combien sur un serpent, vous irez voir sur l'Internet, là, mais... Bon, ouais, c'est ça. Mais le serpent, ça monte au pire que les serpents ne devaient pas en avoir 2 millions d'espèces au début. Là. Mais en tout cas, moi, je vous dis juste que des organes vestigiaux, il y en a sur les serpents, c'est intéressant. Que les évolutionnistes vont donner une raison. Au pire, ça pourrait être juste un rappel, tu sais. Bon... Je l'ai juste mentionné. On a parlé rapidement aussi, je ne vais pas y revenir, comme quoi que à l'époque, certainement que les écosystèmes fonctionnaient différemment. On a parlé rapidement, là, parce que ceux qui connaissaient un peu plus ça, qui avaient des reportages, on sait qu'aujourd'hui, c'est important qu'il y ait des prédateurs pour pas qu'il y ait trop de proies, puis les choses s'équilibrent naturellement. C'était pas le même au début, certainement qu'il y a eu un réajustement après que le péché est entré dans le monde. Puis on finit le chapitre 1 avec le verset 31, puis M. Élie l'avait mentionné, qu'à la fin du sixième jour, Dieu dit que cela était très bon. C'est encore une référence que Dieu venait de faire de quoi de spécial dans le sixième jour. Il venait de créer l'être humain. Et la création, à ce moment-là, elle était complète. Alors, on arrive dans Genèse 2. On a déjà parlé beaucoup de Genèse 2, mais dans mes notes, je suis rendu là. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. On voit maintenant que les cieux et la terre sont remplis par une armée de création, contrairement au début où est-ce qu'elle était informe et vide. Verset 2, Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Je sais pas c'est quoi vos versions, mais juste qu'il avait créé en la faisant, là, c'est les deux verbes sont utilisés ici, le verbe bara, création ex nihilo, puis le verbe azar, de formation. C'est que même, on fait référence que l'œuvre de Dieu, ça a été une de création à partir de rien, puis de création à partir de ce qui était déjà. Même dans le verset ici. C'est pour ça qu'en français, ça fait bizarre, créer en la faisant, là, c'est comme on pourrait aussi, des petits commentaires là-dessus, on pourrait traduire dans l'hébreu certainement reposer par arrêter de travailler. Okay, c'est qu'il n'y a pas l'idée ici que Dieu s'est reposé puisqu'il était essoufflé. Là. Il y a vraiment une décision de la part de Dieu d'arrêter de travailler puis de spécifier que tel jour, ça a été une journée où il a arrêté de travailler. Puis c'est pas pour rien qu'il mentionne là. Vous savez évidemment qu'il va revenir plus tard avec les 10 commandements lorsqu'il va instituer le sabbat. Il va revenir au fait que Dieu lui-même a arrêté de travailler le septième jour. C'est qu'il a... Oui, pour le sanctifier, c'est clair. Et à quelque part, on a aussi, évidemment, à ce point-ci, une indication comme quoi c'est important pour l'être humain de se reposer, d'arrêter de travailler. C'est clair, on va le voir dans les commandements. Puis je pense que jusqu'à ce jour, s'il y a bien quelque chose que, même si la Bible n'était pas là, on pourrait éventuellement comprendre qu'il travaille 7 jours sur 7, on suivra pas la cadence au moment donné. Bon, Dieu l'a pas fait parce qu'il en avait besoin, étant Dieu qu'il l'a fait pour sensibiliser au fait que Dieu allait le commander, éventuellement. L'autre chose qui est intéressant quand ça dit arrêter de travailler, ok, il a pas arrêté de travailler n'importe comment. Dieu a arrêté de travailler en créant et en faisant des choses au septième jour parce qu'il avait passé 6 jours à créer et à faire. Mais en même temps, c'est pas que Dieu se retire de la création. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde la création, on voit plus des processus de création autour de nous. La nature fonctionne plus avec la création ex nihilo. On voit pas des affaires apparaître de nulle part ou des choses se former à la façon de la première semaine de la création. Mais Dieu est encore là en train de soutenir l'univers avec des lois qu'il a établies qui sont plus des lois de création, mais des lois de préservation, si on veut. Puis là, ceux qui connaissent un petit peu, c'est quoi dans les lois qui régissent un petit peu la nature qu'on a pu connaître, là? On parle souvent des lois les deux lois de la thermodynamique. Là. S'il y a de quoi actuellement, les lois qu'on peut constater dans la nature, c'est que les choses soit se détériorent naturellement, se désintègrent, ou bien les choses se conservent. Okay? mettons, la matière se transforme dans différentes formes, mais elle disparaît pas ou il n'y en a pas qui s'ajoute. C'est juste ce qu'on sait, mais sur différentes formes. T'sais. Fait que c'est intéressant. Dieu a arrêté de travailler en créant, mais Dieu certainement est en train de préserver l'univers. On sait que Dieu tient l'univers dans sa main. On est conscient qu'il a dû instituer des lois. Mais c'est intéressant de voir qu'actuellement, si ce n'était de la révélation divine, on n'aurait pas pu deviner la création. T'sais, on n'aurait pas pu regarder autour et dire « Ah oui, c'est... » Sûrement qu'il y a des trucs qui ont été créés à l'époque parce que je vois des phénomènes de création. Non, ça c'est parce que Dieu nous l'a révélé autrement. Lorsqu'on regarde autour de nous actuellement, c'est pas ça qu'on voit. On voit plus des choses qui se conservent ou qui se désintègrent. Comprenez? C'est qu'il fallait la révélation pour nous apprendre que Dieu, à un moment donné, a créé. Et on arrive aussi, je vous ai parlé à un moment donné que Genèse était séparée en différentes histoires. Parce qu'il y a différents groupes de chapitres dans la Genèse sont séparés par des introductions. On va appeler ça des toledotes, le mot hébreu. Lorsque l'expression revient souvent, voici la postérité de. Puis à chaque fois que ça dit ça, ça nous raconte un petit peu une histoire dont le personnage principal est celui qui était mentionné dans le titre. Voici, mettons, la postérité d'Adam. Mais là, on vient d'avoir une histoire que certainement Adam a vécu, puis c'est peut-être lui qui a même rapporté. T'sais. C'est que là, on en a une première ici, là, on est, lorsqu'on arrive au verset 4 du chapitre 2, voici les origines du ciel et la terre quand ils furent créés. Bon, là, c'est pas clair si c'est en partie une conclusion, puis en partie une introduction au texte qui suit. Là. Je veux pas m'éterniser là-dessus, mais au verset 4, on aurait même pu diviser le verset 4 en deux, ça aurait été plus facile à comprendre. Dans la première partie du verset 4 au chapitre 2, voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, point. Puis après ça, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs ne poussait encore. Si vous séparez le verset 2, c'est plus facile à comprendre parce que ça s'est mélangé un petit peu. Même dans vos Bibles, probablement, si vous regardez le verset 4, il y a un point à quelque part. Ils l'ont juste mis dans le même verset. Mais le 4A, c'est comme un genre de titre. Okay? C'est un titre qui fait référence à avant et après, peu importe. Donc, voici les origines du ciel et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ici, on est probablement dans les versets les plus difficiles à comprendre ou les plus nébuleux des premiers chapitres de la Genèse. C'est dans ceux-là en sont. Là, ici, le chapitre 2, versets 4 à 6. C'est, si vous allez voir des commentaires, il y a tellement d'interprétations différentes. Vous allez voir que c'est un des versets qui est un peu difficile à comprendre. Je vais vous proposer des explications, mais c'est ça. C'est un peu difficile à comprendre pour toutes sortes de raisons, parce que la façon que c'est écrit dans l'hébreu, puis aussi l'information qu'il nous donne. Genèse 6, c'est un autre texte qui était sujet à beaucoup d'interprétations, mais je pense que Genèse 6, en bout de ligne, est plus clair. Mais on va y arriver. Lorsqu'elle parle des fils des yeux, on a trouvé que les filles des hommes étaient belles, sont descendues vers elles, tout ça. Bon, toutes sortes d'interprétations, mais je pense que, mais qu'on arrive. Bon, ça, je pense que c'est un texte qui est plus clair encore que celui-là. Maintenant, au pire, il y a des gens qui ont vu des contradictions dans ce texte-là parce qu'ils disent que ça contredit le chapitre 1. Parce qu'ils disent ici, qu'est-ce que ça dit? Donc, c'est comme si Dieu avait pas encore créé la végétation parce que l'homme n'était pas créé. C'est comme si ça prenait l'homme pour que Dieu crée la végétation. Si vous relisez des versets ici. Mais dans le chapitre 1, c'est pas ça qui s'est passé. Dieu a créé la végétation au jour 3. Puis après ça, c'est au jour 6, il a créé l'être humain. Donc ça semble être le contraire ici. D'ailleurs, il y a deux fois dans le chapitre 2 où est-ce qu'on semble voir le contraire. Maintenant, avant de voir quelque chose qui se contredit, il faut premièrement regarder le texte si c'est si clair que ça, puis c'est loin d'être le cas. Il y a des choses que je veux vous relever, les points importants à relever si on veut comprendre ces versets-là. Premier point important, il ne faut jamais oublier c'est à qui est adressé le texte de la Genèse avant tout, lorsqu'il a été compilé, puis tout ça qui a été édité. Qui a lu ça? Dans les premières personnes qui ont lu ça, c'est des Israélites. C'est quoi leur style de vie aux Israélites? C'est des gens qui sont très, très près là, de la terre, dans le sens qu'au niveau, ils vivent de l'agriculture, de l'élevage aussi d'animaux. Ils sont très, très dans leur. Nous autres, on a perdu un petit peu notre. On a perdu aujourd'hui la proximité avec la Terre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On est encore aussi dépendant de la Terre et de ce qu'elle peut nous apporter comme richesse et comme nourriture. C'est juste qu'on ne s'en rend plus compte parce qu'on est loin de la production primaire. Toute l'affaire, mais je veux dire, c'est pas aujourd'hui parce qu'on a des engrais chimiques puis qu'on a des machines, des moissonneuses batteuses à plusieurs millions de dollars puis la patente puis une grosse industrie que c'est plus facile. D'ailleurs, ça démontre au pire que c'est aussi difficile puis que ça a pris des innovations pour faire en sorte qu'on soit capable d'aller retirer de la nourriture du sol. Mais la malédiction qui est venue avec le péché, Dieu a dit qu'elle allait maudire le sol. Elle n'a pas disparu avec l'innovation technologique. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Bon, à l'époque d'Adam, c'était plus rough directement ses biceps quand tu piochais, là, ou peu importe, on s'entend, quand tu ôtais les ronces. Là, c'était pas rough, c'est ton bicep, mais c'est rough à arriver à faire la job pareil parce qu'il faut arriver à avoir de la machinerie puis lutter contre les ronces puis les mauvaises herbes de nos jours. Puis même si des fois, on dompe des affaires pas super bonnes de l'environnement, mais... C'est encore la même chose est là. Ça pour dire, nous, on est loin de ça, pourtant on en dépend encore autant. Un Israélite qui, lui, est un cultivateur, je veux dire, lui, regarde, lui, quand il, s'il pleut pas, il a catché que ça allait influencer sa vie drette là. Moi, s'il pleut pas demain matin, je pense pas au fait que j'espère que je vais avoir des céréales l'année prochaine. Ça, bon, comprenez que eux autres, c'est très, très près d'eux autres. Et je crois que ce texte-là, ici, est écrit pour donner d'informations aux Israélites, pour savoir d'où est l'origine de la culture, l'origine de l'agriculture, puis comment Dieu s'y est pris pour que les choses fonctionnent, parce qu'eux sont habitués d'avoir des cultures qui dépendent énormément de la pluie, puis ils vivaient dans des régions où il y a des saisons qui ont moins de pluie que d'autres, c'est qu'ils sont très, très conscients de ça. Premier point, il ne faut pas oublier à qui ça s'adresse. Et comme je viens de dire, deuxième point, il faut être bien conscient qu'eux autres sont les Israélites étaient bien conscients de l'importance cruciale de la pluie pour la culture du sol, d'autant plus de par le fait qu'ils habitent dans des régions plus secs, plus sèches. L'autre affaire, c'est de pas n'importe quel végétaux aussi que le texte parle. Puis ça, c'est important aux Lévites, OK? L'expression dans l'hébreu qu'on a traduit en français par « des champs » ou « de la campagne », dépendamment de vos versions, il y a des versions où c'est marqué « les arbustes des champs », mais d'autres, c'est marqué « de la campagne ». La même chose pour « aucune herbe des champs » ou « aucune herbe de la campagne ». Le texte en train de nous spécifier, il parle pas de toute la végétation ici. Puis quand on va dans l'hébreu, vraiment, cette expression-là, c'est toute la végétation qui est relative à la culture humaine, dont les êtres humains sont plus intéressés à cette partie de la végétation-là, c'est celle-là qui cultive, OK? Quand on dit des champs ou de la campagne, c'est vraiment l'idée dans le mot hébreu. Encore là, on parle donc de végétation utile, près et proche de l'être humain. On ne parle pas de toute la végétation. Déjà là, on ne peut pas comparer chapitre 1 et chapitre 2 à ce point-ci. Vous comprenez, l'auteur a pris le temps de spécifier de quelle végétation qu'il parlait. Et de plus, OK, là c'est une supposition, étant donné que l'homme est plus tard placé dans le jardin d'Éden, parce que le jardin n'est pas encore créé, l'homme n'y est même pas encore placé, OK, on pourrait même arriver à supposer, là je vous dis c'est une supposition, et en plus vu que l'homme lui a été donné la responsabilité de cultiver le sol dans le jardin, là, c'est là qu'elle a habité, Dieu l'a placé dans le jardin, puis tu vas cultiver là, puis garder là. C'est que je veux dire, on s'entend qu'il n'est pas omniprésent, là, Adam. Il va se concentrer sur un lot à quelque part. Il ne va pas commencer à cultiver un continent. Fait que là, il est là. On peut facilement supposer que les végétaux mentionnés ici seraient peut-être même des végétaux spécifiques au jardin. Peut-être pas, mais je vous fais juste donner des pistes de réflexion. Parce qu'on parle de végétaux cultivables puis des végétaux que Adam allait cultiver. C'est qu'au pire ici, pas au pire, mais on parle pas de la même chose que chapitre 1, ça c'est clair. Maintenant, deux façons que je vais vous proposer d'interpréter les versets. Les versets, on peut les interpréter en considérant que le temps de verbe peut être compris à l'imparfait aussi. C'est comme si l'auteur était en train de dire, bon, à l'époque où Dieu a créé, il n'y avait pas encore de végétation comme ça, qui poussait, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de pluie, puis à l'époque, l'homme n'était pas créé. Mais à l'époque, Dieu s'organisait quand même au niveau de la pluie, il y avait une vapeur qui s'élevait au-dessus du sol, puis qui nourrissait les plantes. Puis éventuellement, Dieu a créé l'homme, donc ça a réglé le problème que la végétation ne pouvait pas s'entretenir tout seul, l'homme allait l'entretenir. On pourrait comprendre que c'est un retour, une explication générale de ce qu'était la situation dans Genèse 1 ou dans quelle était la situation dans les jours 3, 4, 5, 6, OK? Je sais pas si vous comprenez, là. Là, j'irai pas à travers les temps de verbe, puis c'est de voir, de comprendre ça, comment on pourrait comprendre ça, mais le texte est nébuleux, mais on peut arriver à le comprendre comme ça. Moi, je vous propose une autre explication. Celle-là, pour moi, elle est correcte, mais je propose que ça peut être très chronologique ce qu'on lit ici, puis il faut juste considérer peut-être qu'à ce point-ci, Dieu crée quelque chose qu'il n'avait pas encore créé avant le jour 6. C'est que moi, je suis à l'aise avec l'idée que Dieu, soit qu'il ne l'a pas créé ou soit qu'elle ne pousse pas, cette végétation-là, parce que dans le texte, ça dit qu'elle n'avait pas été créée ou elle ne germait pas encore. Fait que peut-être qu'elle ne fait simplement pas pousser parce que les conditions n'étaient pas encore là pour que cette sorte de végétation-là pousse. Puis c'est quoi les conditions qui manquaient? C'est la pluie. Fait que là, et c'est là que je vous dirais que c'est le moins clair à comprendre. C'est comme l'auteur nous dit, il pleuvait pas, mais il y avait une vapeur. On en a déjà parlé de la vapeur, juste le différentiel de température jour-nuit. Fais en sorte que tu peux avoir une forme de rosée. Tu peux avoir une forme de condensation locale, où l'eau monte sous forme de vapeur, puis elle retombe sous forme liquide à la même place. On s'entend, il n'y a pas beaucoup de vent à l'époque. Là. C'est que, tu n'as pas les gros mouvements atmosphériques où c'était une évaporation au niveau des océans, puis ça vient tomber en pluie au niveau des continents. Là, c'était pas ça. Moi, je suggère que peut-être, parce que là, on parle ici de végétation que Dieu aurait créée, ou mettons, qui ne germait pas, mais qui aurait créé. Peut-être qu'il aurait vraiment créé au jour 3. Elle ne germait pas encore. Mais quand Dieu a créé le soleil, ça se pourrait-tu que... Parce que le soleil est arrivé au jour 4. Oui, il y avait la lumière avant, mais le soleil est arrivé au jour 4. Est-ce qu'il y aurait eu une augmentation du différentiel de température aujourd'hui à ce moment-là? Parce que le soleil peut-être dégageait une source de chaleur additionnelle que la lumière au début ne dégageait pas. Peut-être que la lumière faisait la différence entre le jour et la nuit, tout ça. Donc, peut-être que même les végétaux de la campagne ne poussait pas encore, parce que même la rosée ne se produisait pas encore. Puis la rosée a commencé à... Je ne dis pas qu'elle ne se produisait pas entièrement, mais la rosée, telle qu'on la connaissait à partir du jour 4, elle s'est produite vraiment plus fortement lorsque le soleil a été créé. Ça, c'est ma théorie personnelle. Donc, on arrive, le soleil est créé, là, on a vraiment un plus grand différentiel de température jour-nuit. Là, tout d'un coup, on a de l'eau pour que ces végétaux-là poussent. Puis éventuellement, ce qui leur manque pour être cultivé, c'est l'être humain lui-même. Puis l'être humain va être créé au jour 6. C'est qu'après ça, on a tout ce qu'il faut pour avoir l'agriculture qui roule. Puis là, t'as l'Israélite qui cache un peu de où ça vient, tout ça. Dit, OK, bon. Puis d'ailleurs, ce que vous lisez le texte, là, le verset 6, le verset 7, il répond à ce qui manquait pour que la végétation de la campagne pousse. Il dit, il manquait la pluie, mais une vapeur s'éleva. Il y en a qui traduisent s'élevait. Ça change beaucoup. Vous comprenez, si on traduit à l'imparfait, ça veut dire qu'il y avait une condition qui était déjà là depuis la création de la végétation. Si on traduit s'éleva, c'est le passé simple, c'est comme si de quoi s'est passé à un moment donné qui a changé la donne. C'est pour ça que je vous dis peut-être que la création du soleil a créé, si on veut, ce changement de température-là accentué. Puis le verset 7, c'est la deuxième réponse. Verset 7, c'est qu'il n'y avait pas l'homme, n'avait pas été créé. Et là, on arrive au verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Bon. Fait que là, l'Israélite apprend là, que tout ça s'est réglé, puis après ça, on pouvait avoir l'agriculture. Je m'étendrai pas plus sur ce verset-là, mais je viens vous le dire que c'est ça. Pas super facile à comprendre en première lecture. Une chose est claire, c'est que c'est pas une contradiction avec le chapitre 1. Juste le fait que le texte n'est pas clair, on peut pas sauter dans les contradictions trop vite, puis on voit que c'est pas n'importe quelle végétation qui est parlée ici. J'espère que je ne vous ai pas plus mélangé, là, mais en tout cas, s'il y a de quoi, vous viendrez me voir après. Oui, Bertrand.
Par rapport au verset 7,
oui. Mais c'est ça, dans le fond, ici, étant donné que ça passe spécifiquement d'une condition particulière, c'est-à-dire l'agriculture, les végétaux cultivables, là, il veut répondre comme à une question qu'un Israélite ou qu'un premier lecteur pourrait se poser, c'est qu'il fait juste un retour sur la situation de la semaine de création. Mais dans ce verset-là, ça parle au pays de plusieurs jours. Ça parle si les végétaux ont été créés au troisième jour, même si ces végétaux-là ont peut-être été créés au troisième jour, puis ils germaient pas encore. Puis au pays, ça parle du quatrième jour aussi, parce que là, on avait le soleil. Puis ça parle du sixième jour. C'est que ça fait référence à plusieurs journées, si on veut, dans le même texte. Il y en a d'autres qui pourraient suggérer même que tout ça se serait passé dans la sixième journée, que même ces végétaux-là auraient été créés seulement la sixième journée, parce que là, finalement, là, t'avais la rosée qui était active, puis t'avais l'homme qui venait d'être créé, donc Dieu a créé ces végétaux-là la sixième journée. Ça, c'est pas far-fetched, dans le sens, quand je vous dis, c'est pas en dehors du texte de dire ça, parce que le jardin d'Éden va être créé la sixième journée. Vous comprenez bien que dans la sixième journée, si le jardin d'Éden a été créé, c'est que d'autres végétaux qui ont été créés au sixième jour. Ça veut dire que tout n'avait pas été créé au troisième jour dans les végétaux. Bien, on va le voir, c'est l'expression qu'utilise, on va y arriver, on va arriver au verset. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Cette expression-là que Dieu a planté un jardin particulier, puis il décrit que dans ce jardin-là, au verset 9, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. On va y arriver, là, je me devance un peu, je vais y arriver, c'est vraiment la façon que c'est écrit. J'y arrive. Donc, verset 7, on parle de la création de l'homme ici. Ça nous donne un peu plus de détails. Vous voyez que dans le chapitre 1, on n'a pas su qu'il avait été créé de cette façon-là, qu'il a soufflé dans ses narines un souffle de vie, puis qu'il l'a formé à partir de la poussière de la terre. Là, on a cette information-là ici. D'ailleurs, le fait que l'homme est formé à partir de la poussière, ça rappelle au lecteur que l'homme est une créature, OK? Puis que l'homme est une condition humble comparée à son créateur. Il a été fait à partir de la poussière. Puis c'est ça. Mais là, il n'était pas supposé mourir au début, mais une fois que la mort rentrait, elle aurait devenu poussière. Toutefois, on voit que Dieu s'y est pris même différemment pour donner le nefesh, le souffle de vie à l'homme. Juste le fait que Dieu a personnellement insufflé un souffle de vie dans les narines de l'homme, juste la gestuelle ici donne encore une valeur à l'homme, une dignité. Et quand il a créé le souffle de vie chez les animaux, là, on ne nous a pas dit que ça s'est passé comme ça ici. Il y a un homme qui est créé, il n'y en a pas 10 millions, il y en a un, puis Dieu lui insuffle le souffle de vie. C'est juste le fait qu'il mentionne ça. C'est pas mentionné pour rien. Là, on arrive au verset 8 à 15. On a le verset 8 qu'on va lire. Puis après ça, le verset 9 à 14, c'est juste des détails sur le verset 8. Verset 9 à 14, vous nous expliquez ce qui s'est passé au verset 8. Puis après ça, au verset 15, on continue. C'est comme s'il y a une parenthèse, verset 9 à 14. On va le lire ensemble. Verset 8. « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. » Là, on comprend bien que l'homme vient d'être créé, c'est qu'on est dans le sixième jour. Okay? On s'entend, là, si on s'en va au chapitre 1, on est sixième jour. « L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. » Donc, il y a une action ici où Dieu plante un jardin. Un jardin, ça veut dire qu'il y a des végétaux là-dedans. « Et il y mit l'homme qu'il avait formé, il vient de le former, il le met là. » Parenthèse maintenant, il va spécifier qu'est-ce que ça veut dire planter un jardin. Là. Il vient de planter un jardin, mais voici ce que les détails de cette plantation-là, verset 9 à 14. « L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. » Là, c'est important encore là, parce qu'on pourrait dire, bien là, c'est le contraire du chapitre 1. Voyons donc, l'homme est créé, puis là, Dieu se met à créer la végétation après. Parce que si vous lisez le verset 9 comme étant Dieu a créé toutes les arbres de toute espèce avec la semence en elle-même, là, vous avez c'est le contraire du chapitre 1. Parce que c'est ces idées-là qui ont fait en sorte que des gens ont dit les deux chapitres se contredisent, donc c'est poétique. C'est de l'allégorie, chapitre 1, puis là, on a parti ces idées-là. Mais c'est hors du contexte. Le verset 9 ici, dans le contexte, on est dans le contexte du jardin d'Éden. C'est entouré par le verset 8 qui dit « Je viens de planter le jardin d'Éden ». C'est ce que je décris au verset 9, là. Ça a rapport à ce que je viens de dire. On est dans le contexte du jardin d'Éden. C'est que ce qui fait pousser du sol à ce point-là, il fait pousser du sol ce qu'il y a dans le jardin. Il ne fait pas pousser du sol ce qu'il y a sur la planète au complet, vous comprenez? Le contexte est là. C'est super important. Autrement, on va s'amuser à dire que c'est une contradiction. Bon, c'est pour ça que je dis, on avait parlé au début du cours. En interprétation, c'est important de rester toujours dans le contexte pour regarder les versets qui entourent, les versets qui nous concernent. L'Éternel Dieu donc fit pousser du sol des arbres de toute espèce, OK? Agréable à voir et bon à manger. Même que les arbres qui faisaient pousser, il y avait quelque chose de particulier. C'était important que ça soit esthétique, OK? Ou en tout cas, Dieu l'a mentionné que tes regardettes avaient le goût des bouffées, OK? Dieu a fait un jardin particulièrement beau et attrayant pour l'être humain. Il l'a placé dans une place encore plus hâte qu'elle reste si on veut. Puis là, on peut bien comprendre qu'il parle du jardin parce qu'il spécifie certains arbres particuliers qui en a juste un sur la planète, là, puis ils ne sont pas n'importe où. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, comprenez qu'on reste dans le contexte du jardin ici. Pourquoi il parle de deux arbres? Pourquoi il parle de deux arbres? Mais dans le fond, là, je ne reviendrai pas sur l'arbre de la vie parce qu'on en a parlé beaucoup, mais c'est clair qu'il y avait un arbre particulier qui avait rapport avec la vie éternelle. On ne sait pas exactement s'il fallait qu'il en mange ou non. Bon, mais il semble que oui. Parce que là, ils ont été empêchés d'y retourner lorsqu'ils ont connu le bien et le mal. Dieu les a empêchés de retourner à l'arbre de vie de peur qu'ils vivent éternellement. Maintenant, et l'homme est comme l'un de nous, Dieu a dit. Avec sa connaissance du bien et du mal, on veut pas qu'il y ait l'arbre de vie. C'est pour ça qu'il nous parle de cet arbre-là, ce qui est particulièrement important. Il va être encore là dans les nouveaux cieux, nouvelle terre, si on voit dans l'Apocalypse. Puis on a parlé de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Je vais pas en parler beaucoup, mais là, au pire, cet arbre-là, la connaissance du bien et du mal, c'est juste un arbre que Dieu a dit ça, là, tu y touches pas. Et on en a parlé, je vais le ramasser, mais encore là, on discerne tout de suite la grâce de Dieu. Là. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'y a rien de machiavélique là-dedans. Au contraire, Dieu a créé un être libre. Dieu a créé un être avec qui il veut entrer en relation, Dieu lui-même étant relationnel. Dieu est en trinité, Dieu est relationnel. Dieu veut entrer en relation avec sa créature, on voit que c'était son intention. Mais Dieu ne peut pas forcer la relation. Ce qu'on apprend, c'est qu'une relation, c'est voulu, c'est libre par les deux parties. Puis si on pourrait confirmer le désir de l'homme d'entrer en relation de Dieu, en relation avec Dieu, Dieu a donné comme un test de probation. On va prendre des termes comme ça. Mais un test, on s'entend-tu que c'est pas un gros test, là, Dieu n'a pas donné. J'ai déjà mentionné, tu n'avais pas un cartable de trucs à faire, puis fais attention comment tu vas marcher, bonhomme, parce que ça ne marche pas, on coupe les liens assez vite. Là, c'est pas. Aujourd'hui, nous, on a peut-être ces attitudes-là dans nos relations. Moi, j'improvise, mais des fois, on peut avoir l'attitude de dire, là, moi, j'ai plein de règles, ça marche pas. Dieu n'est pas comme ça. Là, je vais à peine. Écoute, je t'ai créé tout un jardin là, super cool. Mais tu regardes, tous les arbres, tous les fruits ont l'air bon à manger. Je veux dire, c'est pas comme si je t'en ai fait deux, puis là, tu vas te lasser de manger des oranges, tu vas avoir le goût de goûter à la pomme. Là. C'était pas une pomme en passant, mais c'est pas ça qui s'est passé. C'est que il a juste dit, parmi tout ça, puis le test était très facile. Fais juste pas manger de ça, de cet arbre-là, l'air. Je dis, ultimement, là, je veux dire, c'est tellement pas difficile. Mets-toi une étiquette dessus, là, puis dis à tes enfants, ne touchez pas à lui. Il y en a 3 millions à côté, prenez le reste. Là. Je dis, c'est pas difficile. Là. Le reste, c'est super excitant, vous comprenez? C'est qu'au pire, on voit. moi, je crois qu'on peut discerner déjà l'amour et la grâce de Dieu, même dans le test de probation pour établir la relation. Donc, oui, pour ça que les arbres sont mentionnés. Et là, ça nous spécifie la géographie d'Éden. Comme je vous ai mentionné, essayez pas demain matin de partir en famille, découvrir où était le jardin. Le déluge a changé tout ça. Okay? C'est que même les fleuves et toute sa patente-là, là, c'est pas la même place. C'est que, bon, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. On va y revenir à ça, arroser le jardin, là, comment ça fonctionnait. De là, il se divisait en quatre bras. Le nom du premier était Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. Havila, ça veut dire « terre de sable ». Je pense souvent qu'il y a de l'or dans ces coins-là, ce qu'il y a du sable, en tout cas. Havila, c'est même dans la descendance des fils de Noé, je pense dans la descendance de Sem, il y a deux de ses ans, en tout cas. C'est un nom qui revient souvent chez les enfants de Noé, deux fois Havila. Si tu le fais que ça les a impressionnés comme terre, puis ça s'en sont souvenus, là, tu sais. Peu importe. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le bdellium. Le bdellium, c'est mentionné une autre fois plus loin, là, pour ceux qui sont super comme ça, des petits détails de même, dans Nombre 11:7. Le bdellium est comparé à la manne que le peuple d'Israël avait à manger. Et ça serait probablement une gomme précieuse. Et la pierre d'onyx, ben on n'a aucune idée c'est quoi, la pierre d'onyx. Puis le nom du second fleuve est Guion, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Idekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Comme j'ai mentionné, il y a des noms qui sont revenus après le déluge, ont réutilisé des noms de fleuves qui avaient été bien connus avant et qui ont été redonnés par la suite à d'autres fleuves après le déluge. C'est un signe du fait que c'était des fleuves qui étaient importants. Écoutez, la civilisation a commencé là. C'est que c'est clair que dans la mémoire collective, là. Ben, on va arriver assez vite dans Genèse 4, où ce que dans la descendance de Caïn, la métallurgie, là, ils travaillaient déjà le métal. C'est-à-dire qu'ils ont découvert assez vite comment faire fondre des minéraux pour faire de la métallurgie avec. Là, si vous allez dans Genèse 4, vous allez voir ça. C'est que là, ils spécifient justement l'éditeur, le compilateur mentionne c'était une terre qui était riche en tel minéral parce que ça allait être quelque chose qui intéressait les hommes. Éventuellement avant le déluge, là, on s'entend. Donc, ici, on apprend que dans le jour 6, il y a eu une création. En plus, il y a eu la création du jardin d'Éden, dans lequel l'homme a été déposé. Éden, ça veut dire en passant, ça veut dire quoi, Éden en hébreu? Délice, oui, tout à fait. Ça va bien avec la description du jardin. Petit commentaire ici, peut-être que vous avez lu vite, puis vous avez dit comment ça marche. comment ça marche une rivière? Je sais pas si tu t'es posé ça, Jean-Pierre, parce que vous savez qu'une rivière, elle est, moi, ça coule. Mais pour que ça coule, il faut qu'il y ait, nous autres, aujourd'hui, on est habitués avec le cycle de l'eau, comprenez? Puis, tu sais, les rivières se remplissent à quelque part. Il n'y a pas du monde dans les forêts qui vide des chaudières pour que c'est évident. T'sais. Bon, c'est, non, c'est pas de même que ça fonctionne. Je vous apprends des choses nouvelles ce matin. C'est que là, l'eau, ben, évaporation, j'ai dit au niveau des océans, précipitation au niveau de la terre, bon, dans la, dans, ça tombe au niveau du sol. Il y a une accumulation d'écoulement des eaux du sol. Puis là, par gravité, ça finit par se rassembler. Puis par gravité, bon, l'eau se rassemble, ça fait des rivières, puis ça finit par couler. Mais il y a tout un aspect, tu as besoin des mouvements de vent, tu as besoin des changements de température pour avoir la condensation, évaporation, tout ça. Il n'y avait pas ça, on a dit, avec la couche d'eau au début, il n'y avait pas ça, des grands vents, puis les systèmes atmosphériques comme aujourd'hui. C'est que même qu'ils parlent de fleuves qui arrosent le jardin d'Éden, puis les plantes aussi devaient probablement s'abreuver à partir des eaux souterraines à quelque part, mais ça fonctionnait comment? Monsieur Morris, vous dites?
Du
quoi?
Du lait et du miel.
Du lait et du miel, peut-être. Pouvais-tu boire du lait à l'époque si tu étais végétarien, monsieur le roi? Bonne question, du miel.
Des œufs.
On ne se divisera pas là-dessus. Mais bon, donc je vous propose, le monsieur qui a écrit un des livres, des commentaires que j'ai lus, c'est, il est hydrologue. J'allais dire de nature. Hydrologue de métier. Donc, probablement qu'avant le déluge, certainement que le système hydrologique, comme avec l'eau voyageait, c'était différent. Je vous propose une des théories qui est probablement ça qui se passait dans le fond, parce qu'il n'y a pas 56 façons que l'eau pouvait voyager à l'époque. Là. C'est qu'on le sait que qu'il y avait de l'eau souterraine, on le sait parce qu'elle va être utilisée durant le déluge en passant, les sources du grand abîme. C'est clair que dans la façon où Dieu a formé le sec, Dieu a rassemblé le sec à un endroit, là, il y a même dans l'action de rassembler le sec, il y a peut-être même les fleuves ou des conduits souterrains qui se sont créés par le retrait des eaux. Il y a même eu déjà une formation qui s'est faite là. C'est que on peut facilement concevoir qu'on avait des conduits pressurisés. Je vais retraduire après. Ça avait des conduits d'eau qui étaient sous pression. C'est que s'il y a de la pression, l'eau avait tendance à sortir, on comprend. Et cette eau-là aurait pu provenir de réservoirs souterrains qui eux-mêmes étaient remplis au moyen de l'écoulement par gravité des eaux de surface. C'est que des eaux de surface, puis tranquillement par gravité, ça s'écoule, puis ça va remplir tranquillement à mesure les réservoirs d'eau souterrains. Puis eux, ils restaient pas stagnants. Il y avait une pression qui devait faire en sorte que l'eau rentrait dans des conduits. Peu importe, puis ça finissait par aboutir dans les rivières, parce qu'il y avait des rivières. Mais comment est-ce que cette pression-là t'est créée? Parce que si tu as de la pression, tu peux éventuellement avoir du mouvement. Mais pour avoir la pression, probablement que la pression souterraine aurait pu être fournie par la chaleur interne de la Terre. Parce que c'est clair que, autant à l'époque que maintenant, il y a des sources de chaleur à l'intérieur de la Terre, le volcanisme, les volcans, toute la patente. C'est qu'on peut facilement concevoir que c'était possible d'avoir pour l'eau une façon de voyager et éventuellement d'abreuver la végétation sans nécessairement que ça soit on dépende du cycle d'eau actuel où il y a une évaporation massive, condensation massive, précipitation, égouttement par gravité, puis on refait le schéma. On peut le voir par en dessous si on veut. Je sais pas, vous comprenez, c'est un peu par en dessous. Conduit souterrain, fleuve, etc. C'est que là, tu as de la pression par chaleur interne qui fait sortir l'eau, puis qui s'en va après ça, s'en aller dans un système hydrologique. Puis l'eau finit par se ramasser dans des surfaces, sur la surface, puis elle percole au travers, puis on suit. Probablement que le système d'eau souterraine était peut-être plus important que nos jours, puis on oublie souvent ça comme source d'eau qui était utilisée dans le déluge. Peut-être que c'était encore plus complexe puis plus important que ce l'est aujourd'hui au niveau de l'activité hydrologique de l'eau aujourd'hui. Peut-être qu'à l'époque, c'était plus important. C'est pour ça que quand ça mentionne, j'arrive à toi, Esther, que Dieu a fait en sorte, donc Dieu a changé de quoi? Dieu a initié un phénomène au déluge. Il a fait en sorte que les sources du grand abîme jaillissent. Mais ça, vous comprenez bien que, bon, Dieu a causé de quoi? Peut-être que Dieu a juste fait en sorte que la pression a augmenté, okay, de peu importe la façon, puis que là, juste l'eau n'a pas pu rester souterraine, il a fallu qu'elle sorte. Sauf que vous comprenez que quand l'eau sort par la croûte terrestre, il n'y a pas juste de l'eau qui sort, parce qu'on a, un travail au niveau de la croûte qui se fait, c'est que ça fait automatiquement des tremblements de terre, puis ça sort avec le reste du stock qui est en pression aussi, magma, etc. C'est que, tu sais, je veux dire, d'un volcan, il y a aussi de l'eau sous forme vapeur qui sort avec tout. C'est pas ça qui nous intéresse quand on voit un volcan, puis c'est pas ça qui fait peur, là. C'est le reste. Mais vous comprenez qu'on va y revenir avec le déluge, juste que Dieu ait initié cette sortie de l'eau-là souterraine, ça a occasionné énormément de choses qu'on ne considère pas lorsqu'on lit le récit du déluge rapidement. Oui, oui, Esther. Oui. Ah, tu veux dire par rapport à la vapeur? C'est clair que c'est possible. Tout est possible. Je veux dire, aujourd'hui, je pense qu'il y a des régions dans le monde où c'est très, les geysers sont assez, une présence constante de geysers. Je pense qu'ils sortent à des moments assez fréquents. Là. Vous connaissez peut-être ça plus que moi. Là. Je sais qu'en Islande ou d'autres coins. Là. C'est ça. Oui, oui. Je veux dire, si le système hydrologique était beaucoup basé sur la pression souterraine à l'époque, pourquoi pas? Pourquoi pas qu'il y avait, il pouvait avoir des fontaines un peu partout. C'est cute, hein? Non, ben oui, ça arrose aussi, ben oui. Tu peux prendre ta douche, dans le fond, puis pas besoin d'ouvrir une champlure, tout ça, puis c'était juste à la bonne hauteur. OK.
Le fait aussi qu'il y a été dit qu'il y avait peut-être probablement plus d'eau sur la terre.
Oui.
Aujourd'hui, là, on voit maintenant que quand l'eau est glacée, ça
fond. Oui. Ça fait augmenter, oui, tout à fait. Avant le déluge, on n'avait pas les capotes glaciaires, on n'avait pas les glaciers. Actuellement, il y a énormément d'eau qui est capturée là. Puis, si je ne me trompe pas, l'eau prend de l'expansion lorsque ça fond. Je te regarde souvent, Jean-Pierre, parce que tu es mon scientifique de repère. Mais est-ce que le fait que l'eau est sous forme de glace actuellement, si ça fond, on va s'en rendre compte au niveau du niveau des océans. Donc, c'est parce qu'à quelque part, elle flotte à quelque part au lieu d'être dans l'eau. C'est ça l'idée, là? Grosso modo, compris, elle est un peu à l'air, puis à un moment donné, elle se ramasse sous forme liquide. Mais il ne faut pas oublier qu'actuellement, il y a une bonne partie de l'eau qu'il y a eu durant l'année du déluge qui est prise dans les deux calottes bas. J'ai dit des capotes glaciaires, désolé, calottes glaciaires, je pense qu'il fallait dire. Pouh! Bon. Mettez ça sur le dos de la construction à ce point-ci. Là. Des fois, je dis des mots que j'aime. Et, oui, il y avait un...
D'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'on n'avait pas la même topographie avant le déluge.
Non, c'est ça exactement.
Pour qu'il y ait une inondation, que la terre soit couverte, les mois Himalaya, là, il n'est pas là.
Non, tout à fait, tout à fait. Je pense qu'on l'a mentionné rapidement, mais ça, je veux le mentionner avant même qu'on arrive au déluge. C'est clair que la topographie, c'est-à-dire les élévations, tout ça, c'était pas du même titre que maintenant. Ça, je pense que j'avais mentionné, parce que ça aurait rendu toutes les zones à haute altitude auraient été rendues, ça aurait été plus ou moins habitable, je veux dire. C'est ça. Aller vivre sur des pics rocheux, c'est plus ou moins intéressant. Puis ça, aujourd'hui, il y a des grandes zones terrestres où est-ce qu'il y a des formations montagneuses qui rendent ces zones-là assez grandes, tout simplement inhabitables. Juste simplement parce que c'est difficile de se rendre en haut, même s'il ne faisait pas frette, là, je veux dire, tu ne vas pas être installé en haut de la montagne. Là, c'est que... OK. Ça, c'est important aussi par rapport à l'eau aussi. Là, c'est qu'il y avait peut-être moins de dénivellation qu'il y en a aujourd'hui. Oui. Mais avant le déluge, c'était même pas là, là. Je veux dire, c'est que après le déluge, il était là, le mont Arara. Il s'est formé au pays durant le déluge. Maintenant, par rapport à aujourd'hui...
Ça aurait été plus facile d'avoir pour nous d'envahir...
Ah, c'est clair. Puis il faut comprendre, l'eau a envahi à plein d'autres au complet. Il faut comprendre que le mont Arara au pays s'est formé durant le déluge. Puis là, il a été mentionné dans le texte parce que les gens savaient fort bien qu'il pouvait faire référence à ce mont-là parce qu'ils le connaissaient d'après le déluge. Ou, tu sais, ben c'est... Où Noé... On y a, je vais pas aller trop... Je vais pas aller en avant de moi trop vite. OK. Mais ceci étant dit, au pire, si vous voulez partir en famille, au lieu d'aller chercher le jardin d'Éden, peut-être aller essayer de chercher l'arche. Ça a plus de bon sens. C'est que, je ne sais pas pourquoi vous diriez en famille, mais là, ça aurait plus de bon sens parce que l'arche, je veux dire, c'est après le déluge, l'arche. Okay? Elle peut être encore là quelque part. C'est gardé par les autorités turques qui ne veulent pas qu'on aille confirmer que la Bible est vraie. C'est que, cachée quelque part. Mais il y a eu beaucoup de. Il y a des expéditions en masse qui ont été faites, vous savez, dans le 20e siècle pour trouver l'arche. Des films aussi. Donc, je voudrais pas non plus On a parlé, bon, j'en reviendrai pas sur, sur les versets qui mentionnent que Dieu a dit à l'homme de pas manger. Verset 16, là, 16 et 17, on en a parlé énormément du fait que Dieu a commandé à l'homme de pas manger tous les arbres du jardin, etc. On reviendra pas là-dessus, on en a parlé beaucoup. Après, on arrive au verset 18. Excusez-moi, verset 15, on en a parlé aussi, je veux juste vous le rappeler, que dans un monde parfait, OK, parce qu'on est dans un monde parfait à l'époque, un monde parfait, pour ma chair à moi, des fois, un monde parfait serait un monde de paresse et d'inactivité totale, OK, si je suis assis à quelque part, puis on me sert, puis je regarde, whatever, on m'entretient, we entertain me, puis on me sert. Mais, dans un monde parfait, on voit qu'Adam, il s'était pas dit, ben là, t'as plein de bouffe, mange, puis évache-toi, tu sais. Non, dans un monde parfait, c'est un monde d'activité, c'est un monde d'accomplissement. Dieu a donné à l'homme des tâches de cultiver, de garder le jardin. Ça allait l'occuper. Et donc, le travail, c'est bon pour l'être humain, puis c'est voulu même sans le péché, là, qu'on s'entend. Bon, je viens de tout péter votre ballon. Mais c'est un travail facile. C'est sûr que tu n'es pas en train de te combattre contre des conditions adverses, mais c'est un travail... Le travail est bon, et dans le plan parfait de Dieu, l'homme s'occupe, l'homme gère des choses, l'être humain, quand je dis l'homme à ce point-ci générique, Adam et Ève gèrent des choses ensemble, ils s'accomplissent là-dedans, ils sont en relation avec Dieu, mais c'est pas, puis je ramène l'image, ils sont pas en relation avec Dieu, assis à quelque part, contemplatifs, ils sont pas contemplatifs, puis souvent on voit un peu, comme je vous dis, ils chantent pas des chants grégoriens à journée longue. Ils sont en relation avec Dieu tout en profitant de la création, tout en étant actifs puis se faisant des trucs que Dieu leur a demandé de faire. Puis Dieu veut dire, puis éventuellement, ça n'allait pas être un péché qu'Adam il découvre où il savait déjà comment faire du feu, puis je ne sais pas pourquoi, là. Pourquoi il aurait fait du feu ou juste? On prend un autre exemple. Qui découvre la musique puis qui décide de jouer de la lyre, là, c'est pas mal. Tu sais, c'est plus ne pas être en relation avec Dieu que de faire de la musique. Comprenez, des fois, je fais juste dire ça parce que moi, des fois, je fais de la projection sur le futur puis je n'étais pas capable de m'empêcher de penser à des chants grégoriens. Mais à l'époque, c'était même pas ça. Au début, puis on était parfait puis il y avait de l'activité. Oui, Esther. Moi, ouais. Oui, ouais, tout à fait. Le
travail plus dur que c'était au début.
Tout à fait.
Mais le travail en soi, on le voit aujourd'hui, l'activité physique, c'est bon pour la santé.
Oui.
Une fois que tu sors, tu bouges, tu es en bonne santé.
Oui, c'est clair que le travail qu'on parlait à l'époque. Oui, tout à fait, tout à fait.
Il y a un proverbe qui dit le précieux trésor de l'homme.
Oui, tout à fait. Le précieux trésor de l'homme. Je répétais, là. Ouais. Oui, tout à fait. Le précieux de, je fais juste répéter ton verset. Le précieux trésor de l'homme, c'est son activité. Oui, c'est oui, puis c'est bien dispensé dans le sens qu'il faut réaliser que le travail que l'homme et la femme faisaient est un travail aussi physique. Je le mentionne parce qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes de travail qui sont pas tous les travails sont bons. C'est juste qu'il y avait un travail où ce qui il était dehors puis il travaillait son corps là, tu sais. Sauf qu'on s'entend dessus, c'était plaisant là. Il n'était pas en lutte là avec ce que tu cultives là. C'est que c'était plaisant autrement, tu sais. Mais certainement que pour tous ceux qui traînent un travail de bureau, entraînez-vous, faites de l'exercice. Je vais commencer à faire le papa en avant. Moi je fais de l'exercice, mais je trouve pas ça. J'aurais aimé ça que les toitures s'arrachent plus facile. Peut-être qu'à l'époque c'était plus facile, mais bon. On a battu des toitures à l'époque. Moi, c'est ça, pas de pluie, pas de toiture, pas besoin. Bien, ce que je veux suggérer, c'est qu'on va être occupé, certainement. C'est pourquoi pas. C'est clair que, de toute façon, on est nouveau sur une nouvelle terre. On parle de. Je reviens avec ça. On parle de nation, on parle de ville, on parle de se rendre à quelque part pour aller chercher de quoi. C'est que. Oui, tout à fait. Ben, dans le fond, moi, je viens de dire qu'avec Genèse 1 et 2, on a plus d'informations qu'on pense sur le futur. OK, on tombe à la création de la femme. Verset 18, « J'ai hâte que la femme soit créée. Bon, » c'est là que ça se complique. Bon, c'est là que j'invite ma femme à venir parler. Bon, création de la femme, verset 18. « L'Éternel Dieu dit, l'on achève la sixième journée. » On est encore dans la sixième journée, oubliez-les pas. Hein. Puis c'est pas encore complet. Tu sais, Dieu a dit que la terre était informe et vide, c'était pas complet encore. Puis Adam n'était pas encore complet, il manquait de quoi. Et La femme est comme la dernière création qui rend la création très bonne, complète, entière. That's it, je suis en train de faire... Voilà, il faudrait que ma femme soit ici, je gagne des points. L'Éternel Dieu dit... Hein, tu dis? Ouais, c'est ça. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. » Semblable à lui, dépendamment des versions. L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, ou plus une partie de son côté, une meilleure traduction, et referma la chair à sa place, et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme, et l'homme dit, cette fois c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est elle qu'on appellera femme, Isha, car elle a été prise de l'homme, Ish. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus, et n'en avaient pas honte. » À ce point-ci, c'est Dieu qui décrète hein, qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. C'est Dieu qui constate ça. Je ne veux pas dire que l'homme ne l'aurait pas constaté. Dieu le dit. Bon, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu aime. Dieu est un être relationnel. Il veut être en relation. Il veut que l'être humain lui-même aussi soit en relation. Et donc, je lui ferai une aide semblable à lui, qui sera son vis-à-vis. On a encore un texte ici qui parle de l'égalité en valeur de l'homme et de la femme. Je trouve qu'il est moins fort que le texte de Genèse 1, que je vous ai déjà dit. Là, le texte de Genèse 1, c'est vraiment celui qui est le plus clair. Il créa l'homme et la femme. Homme et la femme, il les créa à l'image de Dieu. Là, ça peut pas être plus clair que ça. Mais on a encore cette même idée-là ici, que Ève, elle a été l'égale de Adam en valeur. Elle est son vis-à-vis. L'idée, la traduction semblable à lui, on pourrait traduire vis-à-vis. Toutefois, c'est clair ici qu'il y a une question de rôle différent. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais Dieu lui créa une aide pour être semblable à lui. C'est que c'est clair, si on retourne dans Genèse 1, que les deux, l'homme et la femme, dans Genèse 1, il leur est donné la même mission. C'est un travail d'équipe, de gestion, de cultivation, ça dit-tu cultivation? Culture, en tout cas. Ça est donné aux deux. C'est en lisant le chapitre 2 qu'on se rend compte que, oups, là, l'homme a été créé avant. Ils n'ont pas été créés en même temps. Alors que l'homme est créé, Dieu lui donne des directives, des commandements, puis lui donne de la job. Puis après ça, c'est pas bon pour l'homme d'être seul, relationnellement et tout. Puis Dieu lui donne un aide aussi pour accomplir tout ça. Parce que quand on va lire Genèse 1, le commandement est donné aux deux. Clairement, c'est le mot générique, le terme générique Adam qui est utilisé. Donc, c'est un travail à deux. Ève, elle ne faisait pas juste manger des pommes pendant qu'Adam il cultivait le jardin. Okay? C'est une affaire à deux. Et sans aller, parce qu'on en a déjà parlé, c'est ces informations-là qui nous permettent de conclure que nous conclure ou qui font en sorte qu'on est complémentaires. Je vous mentionne ça, je vais faire une mini parenthèse parce que c'est pas vraiment le but du cours. Là. Mais il y a toute une mentalité qui a progressé dans les dernières années, même dans nos milieux évangéliques. Quand on parle d'égalitarisme versus de complémentarisme, c'est ça? Non, mais il y a un terme qui finit par isme, qui est l'opposé d'égalitarisme, c'est du complémentarisme. Quelque chose dans le genre, en tout cas. Ici, ce que le texte dit, puis je crois que c'est ce que Paul dit dans Timothée, c'est que complémentarisme, c'est égalité, mais on se complète dans nos rôles. C'est-à-dire qu'on est égalité en valeur. Devant Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui est moins être humain que l'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui est moins aimé que l'autre. Mais dans les faits, Dieu nous a créés différents. Pas en valeur, mais différents en rôle. Puis différents biologiquement, OK? Avec l'homosexualité, puis tout, ils veulent essayer d'arriver à croire qu'il n'y a pas de différence biologique, mais elle est évidente, OK? Je veux pas m'en... Tu sais, c'est tu peux pas plus être évident que ça, OK? On se complète même au niveau biologique, physique, OK? De penser le contraire, c'est la folie de l'homme qui veut rejeter Dieu, OK? Mais si tu vois que physiquement, on est différent, mais aussi Dieu nous a créés avec d'autres différences, peu importe de faire une étude là-dessus, c'est juste le point de dire, c'est vu qu'on a des rôles différents, Dieu nous a créés quelque part pour nous rendre plus aptes à faire le rôle pour lequel il nous a créés. C'est que dans les forces de chacun, je dirais pas de faiblesse parce qu'il n'y en avait pas. Dans les forces, il y a des compléments. Et si on se complète pour faire la même job ensemble, on se complète bien. Okay? C'est ça le complémentarisme. L'égalitarisme, c'est de rejeter même la différence dans les rôles. C'est de dire non, je peux pas être égal en valeur si je peux pas avoir le même rôle que toi. Donc l'égalitarisme, c'est de dire non, on veut avoir des rôles pareils. Puis l'égalitarisme, ça a commencé dans l'Église locale parce que les textes sont les plus clairs à ce niveau-là dans le Nouveau Testament sur la possibilité pour les femmes ou non d'accéder à l'ancienat, là, dans 1 Timothée, tout ça. Mais c'est là que ça a parti, toutes tes questions. Non, pourquoi les femmes n'auraient pas le même rôle dans l'Église que les hommes? Puis après ça, ça va aussi dans le couple, puis ça va, bon, partout. C'est ça l'égalitarisme. Et pourtant, lorsqu'il y a eu des discussions sur ces sujets-là, sur le rôle de l'homme et de la femme dans l'Église, Paul a fait appel à quel texte dans 1 Timothée? Puis c'est ça qui est intéressant pour moi de revenir. À quel texte est-ce que Paul a fait appel? Puis il a fait appel à Genèse 2, si vous vous rappelez bien. Il est allé chercher l'information que Genèse 2 nous dit puis que Genèse 1 nous dit pas. Fait que Paul, il dit quoi? Puis je vais pas faire un... mon point ici, c'est juste de soulever quels étaient les textes fondationnels que Paul a utilisés. Bien, il est allé chercher Genèse 2. Puis c'est quoi ses arguments? Puis là, je n'amènerai pas de conclusion à ça. Je viens de vous dire ce qui est écrit. L'homme a été créé le premier, Ève ensuite, et c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Je ne commencerai pas à interpréter cette partie-là, mais il fait référence à deux événements de Genèse 2. Homme créé en premier, puis Ève, elle a été abordée par le serpent en premier, puis c'est elle qui a été séduite la première. Adam aussi a été séduit après, il a péché tout ça, là, mais bon. Ça, c'est les événements que Paul va... c'est ça, ils ont pris dans la main. C'est même mentionné que Paul fait référence à ça. Et là, je vais terminer avec ça. Je termine avec ça. Mais on va y revenir rapidement. Encore là, on pourrait dire ici, contraire à chapitre 1. Hey, tous les animaux des champs et les oiseaux du ciel sont créés après l'homme. L'homme est créé, puis Dieu crée tous les animaux, puis pour que l'homme constate qu'il n'y a pas d'être semblable à lui, puis qu'il leur donne des noms. Mais chapitre 1, c'est le contraire. Les animaux, les oiseaux sont créés au jour 5, puis les animaux terrestres sont créés au jour 6, au début de la journée, avant l'homme et la femme. Puis ici, on semble avoir le contraire. Encore deux explications, je vous laisse avec ça, vous y réfléchirez. Il y en a qui croient qu'encore, avec le temps des verbes, on pourrait comprendre que le texte dit juste... En passant, Dieu avait de toute façon créé des animaux puis des oiseaux. Puis ces animaux-là, ben Dieu a fait en sorte que Dieu les a fait défiler un petit peu à la manière dans l'Arche de Noé. Là, Dieu les a appelés à Adam, si on veut. Puis Adam les a nommés. Mais c'est comme juste ici, dans les temps de verbe, il ferait juste une référence au fait que, vous vous rappelez, Dieu avait créé ces animaux-là puis ces oiseaux-là, puis voici. Moi, je vous propose aussi une autre explication qui peut. C'est pour ça que je vous dis, la Genèse 2, on peut aussi, à mon avis, l'interpréter chronologiquement, sans qu'on soit obligé de jouer avec le temps des verbes. Je dis pas que c'est mal de jouer avec le temps des verbes parce que ça se fait. Grammaticalement, ça se fait. Moi, je suis à l'aise ici encore parce que c'est pas n'importe quel animaux qui sont mentionnés. Vous verrez bien qu'il n'a pas fait approcher des poissons, des amphibiens puis des reptiles. Les animaux, puis même pas les animaux sauvages de Il y a les animaux des champs, encore le mot des champs revient, les animaux donc près de l'homme, les animaux que l'homme allait avoir à dealer avec de toute façon parce qu'elle allait les domestiquer. C'est ces animaux-là qui sont mentionnés et les oiseaux du ciel. Puis logiquement, je veux dire quelque part, là, je veux dire Adam, il va pas prendre des insectes là, pour voir s'il va être capable d'avoir une relation avec eux. T'sais. Bon, il a pris, logiquement, Dieu a formé de la poussière du sol les animaux qui étaient plus à propos pour peut-être conscientiser qu'Adam, bon... Et l'autre affaire que je veux mentionner, c'est que les oiseaux du ciel sont créés dans le jour 5, puis sont pas créés à partir de la terre dans le jour 5. C'est pas ça qui est mentionné. C'est dans le jour 6 que les animaux terrestres sont formés à partir du sol. Puis ici, tu es en train de dire que les oiseaux du ciel sont formés à partir du sol. Il semblerait qu'il y aurait une contradiction autrement avec le chapitre 1, où est-ce que les oiseaux du ciel sont créés en même temps que les animaux aquatiques. Vous irez voir dans le texte, il y a une création ex nihilo d'ailleurs dans le jour 5, où Dieu fait en sorte que du jour au lendemain, les eaux fourmillent avec des animaux aquatiques, puis le ciel se remplit d'oiseaux du ciel. Okay? Moi, je propose que c'est possible de comprendre ça aussi comme une autre création de la part de Dieu en après-midi du jour 6, bon, peu importe laquelle heure que tu es rendu, où Dieu, je ne dis pas que c'est ça qui est arrivé, je vous dis juste qu'une possibilité, pourquoi pas Dieu a juste pris une sélection d'animaux propices à être en relation avec l'homme. Puis juste cette sélection-là, ça ne veut même pas dire qu'il y en a peut-être créé un de chaque ou deux, whatever, un de chaque. Puis ils ont juste à recréer, bang, en avant de l'homme à partir de la poussière du sol. À l'avant, à côté, 10 pieds plus loin, je ne sais pas. Mais ils ont juste à recréer une classe d'animaux. Ils venaient juste de créer des végétaux spéciaux pour le jardin. Pourquoi ils ne pouvaient pas leur faire pour certains animaux? C'est c'était juste plus simple logistiquement, là, au lieu de caler tous les animaux qui sont un peu partout, là, ben, Dieu peut le faire. Il l'a fait avec l'arche, puis les faire passer devant Adam. Le texte, pour moi, ne me permet pas de nier le fait que ça soit possible qu'il y ait eu une autre création. Quand j'ai une autre création, juste recréer un membre de certaines espèces à partir du sol, puis bang, il fait défiler devant Adam. C'est qu'au pire, on n'aurait pas le contraire du Genèse 1, on aurait juste une autre création dans la même journée du jour 6. Vous comprendrez bien que le Jardin d'Éden, ça a été créé dans le jour 6. Ceci étant dit, on peut aussi comprendre ici qu'il fait juste référence aux animaux qui avaient été créés avant Adam, puis que Dieu en a amené une gang devant lui. On peut comprendre les deux. Je voulais vous proposer deux explications. Autrement, c'est des textes qui sont utilisés comme des contradictions avec Genèse 1. C'est le dernier d'ailleurs, là, j'en ai pogné trois là, dans le chapitre 2. C'est trois textes, ah, c'est une contradiction, pas la même chose chapitre 1. Faut pas comprendre ça historique, cette affaire-là. Il y a de quoi qu'on... Genèse 1, c'est pas historique, c'est de la poésie, c'est de l'allégorie. C'est un petit peu ça qui se passe lorsqu'on contredit des textes qui ont des explications alternatives plausibles. Comprenez-vous ce que j'essaie de dire? On termine avec ça, vous réfléchissez.